Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, j'ai une heure pour vous montrer qu'il y a en France des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour faire changer les choses dans leur secteur, leurs associations et même leur territoire. Gros plan aujourd'hui sur la filière laine à l'occasion du salon Made in France Première Vision, car aujourd'hui elle se restructure sous l'impulsion de passionnés qui veulent croire qu'elle a un avenir dans l'Hexagone et ils vont nous le montrer. Elle existe depuis 1993. Son créateur a toujours le bio comme credo, Léa Nature et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez poster une petite annonce mais vous ne savez pas sur quel site les gens de confiance s'engagent. C'est la solution pour avoir un système familial et sécurisé.
Europe 1.
3921, vous avez comme chaque jour la parole. Venez nous dire par exemple si vous faites attention à la provenance de vos produits quand vous achetez, Anissa, un pull en laine.
Oui, ou est-ce que vous travaillez la laine? Peut-être que vous tricotez, que vous enseignez le tricot aux plus jeunes. Venez nous en parler. Hashtag Europe 1 pour vos messages sur Twitter que l'on va lire pendant cette émission. Et puis on vous écoute également pour appeler Europe 1, c'est le 3921, 50 centimes la minute.
Et oui, parce que la filière laine est en train de renaître sous l'impulsion d'acteurs motivés. Et c'est eux qui sont avec nous aujourd'hui pour les accueillir. Comme chaque jour à mes côtés, Elisabeth Assayagela, bonjour.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Luc Le Sénécal, PDG de Saint-James et président de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant. Bonjour Luc.
Bonjour Raphaël.
Alors c'est vrai qu'il y a encore en France des éleveurs de moutons et pourtant notre laine, leur laine s'en va, notamment en Chine. Alors pour que le produit soit exploité ici en France, il y a des gens qui ont décidé de se battre. C'est votre cas, Pascal Gautran, bonjour.
Bonjour Raphaël, merci pour votre invitation.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête de l'entreprise Made in Tarn et vous travaillez justement avec le salon chaque année sur des projets différents. Mais depuis longtemps, ça vous tient à cœur de faire quelque chose pour cette fameuse filière laine, pour faire redémarrer le secteur, parce que vous pensez qu'il y a un réel potentiel.
En effet, le salon rassemble l'intégralité de la filière, ce qui nous permet d'être vraiment en interaction avec à la fois des gens qui travaillent sur les matières premières. Ça peut être du fil, ça peut être du cuir. Également les gens qui ensuite les transforment, les confectionneurs. Et tout cela au service des marques qui souhaitent fabriquer en France. Dans ce contexte, on a compris, il y a déjà un peu plus d'une année, qu'il y avait une émergence d'un retour à une réexploitation de matières premières, puisqu'il y a, une forme de non-sens aujourd'hui. Et que la laine de nos moutons, nous en avons quasiment 7 millions en France, n'est pas du tout bien valorisée sur le territoire.
Alors vous êtes allé, je crois, dans les ateliers pour voir comment on pouvait partir finalement du mouton et arriver jusqu'au pullover, hein, si je schématise. Et aujourd'hui, vous dites, c'est possible réellement chez nous en France. Est-ce qu'il manque des maillons à la chaîne?
Alors il manque quelques maillons, mais une partie de la chaîne, elle est encore intacte. Très très fragile.
On a les moutons, on a même des cheptels importants, parmi les plus importants d'Europe.
On a le plus grand troupeau d'Europe, on ne le sait pas, mais les brebis Lacaune, qui sont installées au sud du Massif Central, sont le troupeau de même race, au même endroit, le plus important en France, enfin en Europe. On a perdu l'habitude en fait de travailler ces laines-là. On a standardisé énormément avec l'industrie l'usage de la laine. Donc on préfère importer une laine très standardisée, ce qui est plus facile à travailler en réalité.
Elle vient d'où? De Nouvelle-Zélande par exemple, d'Australie?
Oui, voilà, en grande partie. En tout cas, dans les métiers de la mode, c'est celle qui est le plus utilisée. Hein. Je pense que c'est également ce que vous utilisez de votre côté. Ce qu'on a oublié un petit peu, c'est la biodiversité. En fait, on parle de laine, mais on devrait parler de laine au pluriel, puisque le mouton, selon l'environnement dans lequel il évolue, se transforme et la laine a des qualités très diverses.
Et alors vous avez recensé, il y a 11 races en France présentes sur le territoire?
En tout, nous avons plus de 60 races en France. Elles ne sont pas toutes présentes en très grande quantité.
Il y a 11 grandes familles?
Non, pas du tout. En fait, on a réussi à rassembler 12.
Ah, 12
races, oui. Avec la race Corse. 12
pas
races qui ont des propriétés intéressantes. Et nous sommes allés parler un petit peu de cet enjeu de revaloriser, de redynamiser les filières de laine à des marques.
Et alors, comment est-ce qu'elles réagissent justement, les marques ? Elles vous écoutent ? Elles sont attentives à ce besoin de faire renaître la filière laine en France ? Elles ont envie de participer ?
Alors, c'était une intuition pour nous, un engagement. Beaucoup d'associations au niveau territorial sont présentes et font des choses depuis parfois une trentaine d'années pour revaloriser tout cela. Mais les marques, c'est complexe pour elles d'avoir un accès à l'amont de la filière. Donc le salon a cette capacité à créer du lien. On a pu présenter des gammes de fils et de tissages réalisés à partir de ces toisons françaises. Et en fait, les marques, elles ne savaient pas que ça existait.
Alors, que dit justement le PDG de Saint-James ? La laine, forcément, vous connaissez, Luc ?
Oui, puisque on tricote un aller-retour, l'équivalent d'un aller-retour Terre-Lune par mois. Donc, on est un petit peu au bout de la chaîne. Bon, tout d'abord, je vous félicite pour cette initiative et ce projet. Parce que c'est une filière très, très compliquée. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a 4, 5 filateurs encore en France.
Alors, il y en a 5. Hein. Il y en a 5 aujourd'hui. Voilà. Le problème, ce n'est pas forcément la filature, c'est le lavage de la laine. Je crois qu'il n'en reste plus qu'un.
Oui, alors effectivement, parce qu'entre la laine brute du mouton, déjà, il faut la trier, il faut la laver. Et il y a tout un tas de process et on ne sait pas encore qui fait comment. Et c'est bien de rassembler tout ça, puisque, bien sûr... Beaucoup de transformateurs tricotent en France, produisent en France. Mais il faut reconnaître qu'actuellement, la laine provient de Nouvelle-Zélande et d'Amérique du Sud principalement. Bon, après, il y a une notion aussi d'utilisation, parce que vous êtes avec la filière plus en laine qu'on appelle cardée. Et souvent, le textile, on a une préférence pour la laine peignée. Pour
ouais, c'est pas la finesse, c'est pas le même,
finesse,
c'est pas
douceur,
le même usage.
Voilà. Mais on peut travailler et Saint-James travaille beaucoup là-dessus pour essayer de s'approvisionner de plus en plus en France.
Pascal Gautran.
Alors effectivement, il y a plusieurs moyens de transformer la laine et de tirer le meilleur parti de ses qualités. On peut soit carder. Donc, on brosse la laine d'une certaine manière. Ça fait des fils un peu plus épais, mais qui vont avoir une excellente feutrabilité, qui vont avoir qui vont permettre d'obtenir des choses moelleuses, épaisses. Et on peut également peigner la laine. Donc là, on parallélise vraiment très, très bien toutes les fibres. Ça permet d'obtenir des fils plus fins. Donc, si on veut schématiser, un tweed, par exemple, c'est réalisé à partir de laine cardée, alors qu'un un tissu de costume un peu brillant, plus fin pour homme, c'est fait à partir de la laine peignée.
La laine peignée. Elisabeth, comment il se porte le secteur de la laine en France ? Est-ce qu'on sait dire, par exemple, quelle est la laine la plus utilisée ?
Alors, par exemple, la laine la plus utilisée, c'est la laine mérinos d'Australie, de Nouvelle-Zélande, parce qu'elle est fine, elle est standardisée. Parmi les 60 races, parce que vous avez dit qu'il y avait 60 races de laine française, les industriels travaillent aussi un peu de laine mérinos d'Arles. L'Occitanie a le premier cheptel européen avec plus de 1 million de brebis. Mais ce sont des brebis qui donnent davantage de... C'est une laine un peu plus épaisse et qui est surtout utilisée pour les matelas, pour les tapis, ce qui est quand même aussi très important. Mais ça va quand même beaucoup mieux, hein, parce que la bonne nouvelle, c'est que la laine revient à la mode, notamment grâce à vous, hein, et votre projet Tricolore. C'est une filière qui a longtemps été en déclin, et cette tendance du Made in France, du bleu, blanc, rouge, eh bien, elle attire justement. Elle attire. Alors, il ne reste certes que 5 filatures de laine en France, un seul laveur, vous le disiez Raphaël, un seul laveur de laine. Plus de 80% de la laine française partent en Asie pour être traitée, et nous importons quasiment toute la laine préparée.
On va rester ensemble, si vous le voulez bien, et on va continuer justement à regarder de près cette filière laine en France, aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pour relancer cette filière, il faut évidemment plusieurs maillons essentiels. La filature est une étape indispensable. Celle que l'on reçoit aujourd'hui existe depuis 1910. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Raphaël Duchemin, aujourd'hui on s'intéresse à la filière de la laine Made in France. Comment relancer cette filière à l'occasion du salon Made in France Première Vision qui se tient jusqu'à demain à Paris, et nous en parlons de la laine et vous pouvez réagir. N'hésitez pas, vous êtes amateur de laine, vous faites très attention à ce que vous portez, dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1, et 3921 c'est le standard.
Et on va partir dans la Creuse parce que c'est là-bas qu'est née en 1925 la filature sur Terrade. Bonjour Thierry Terrade.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est même un peu avant, hein, j'ai envie de dire, en 1910, si on veut être précis, que tout commence quand votre arrière-grand-père rachète à Felletin, c'est bien ça, une fabrique de tissage à l'époque.
Oui, c'était une fabrique de tissage, de teinture et de foulonnage. Et à cette époque, il fabriquait des capes de berger.
Ah oui, donc c'est votre grand-père, du coup, qui, 15 ans après, décide de transformer un petit peu les choses. À l'époque, les gens, je crois, venaient avec la laine et vous en faisiez du fil. On tricotait, c'est vrai, encore beaucoup à l'époque.
Et bien, à cette époque-là, il y avait énormément de filatures. Dans tous les départements de France, il y avait une petite filature et donc les gens amenaient leur matière première et ils repartaient avec des produits finis. Ça pouvait être des pulls, des draps de laine, des chaussettes ou des échauds pour tricoter aux aiguilles.
Et alors, les choses vont un petit peu être bousculées dans les années 60 parce qu'il y a une inondation qui va saccager le site. Et c'est votre père qui décide de relever le défi de tout reconstruire un petit peu plus haut pour ne pas justement subir les effets de la Creuse, hein, qui passait juste à côté de l'usine. Je crois qu'il est toujours là, mais il vous a passé la main. Il a 81 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et donc, en 1960, il y a eu une inondation et donc les cartes se sont retrouvées à baigner dans l'eau, donc elles étaient inutilisables.
Il a fallu tout refaire, tout racheter.
Voilà, il a fallu racheter du matériel et puis surtout construire un bâtiment à étage, donc où il était décidé d'installer donc d'autres machines.
On le disait tout à l'heure, il n'y a plus que 5 filatures aujourd'hui en France. Comment on fait pour résister? Vous faites essentiellement de la laine cardée.
Oui, donc nous sommes une filature de laine cardée. Et donc on travaille, on a plusieurs diversifications. Donc ça va du fil pour le tricotage aux aiguilles. On fabrique du fil pour la bonneterie. Du fil pour du tissage, ça peut être du tissage artisanal, tissage industriel, pour par exemple fabrication de moquettes, de tapis de sol.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup plus de filatures à l'époque en France, il y en avait notamment dans le Nord, hein, du côté de Roubaix, pour la laine peignée, elles ont toutes disparu. Est-ce qu'aujourd'hui, cette volonté de faire renaître cet écosystème, c'est quelque chose qui vous parle? Je suppose que oui.
Les filatures dans le Nord, bon, c'était des filatures qui étaient très, très importantes, très grandes. Bon, nous, notre force, c'est qu'on est justement une petite structure.
Vous êtes 6 salariés, c'est ça?
Voilà, 6 salariés à temps plein, un salarié à temps partiel. Et on a la possibilité de travailler des petits lots de laine à partir uniquement de 30 kilos de laine lavée. Et donc, ça permet, on a de plus en plus d'éleveurs qui décident de valoriser eux-mêmes leur laine. Et donc, notre petite structure permet de pouvoir leur transformer cette laine en fil.
Luc, notre coach.
Alors, félicitations parce que vous êtes entreprise du patrimoine vivant. Donc, oui. Vous avez un savoir-faire exemplaire. Ma question, parce que nous, en bout de ligne, je parle pour Saint-Jean, mais pour tous mes confrères, on a besoin de volume. Quel est le facteur limitant? Comment on pourrait vous aider? C'est la matière première? Il faut mettre plus de moutons? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, moi, je rappelle, avec un mouton, on fait 3 pulls. Avec
la laine récoltée sur un mouton.
Si on schématise un petit peu. Donc, on a besoin de moutons. On a besoin de personnes comme vous.
Oui, mais donc nous, on travaille depuis pas mal d'années déjà, là, différentes races de moutons, mais parce que nous, on travaille uniquement des laines de France. Et on a des races de moutons comme la race noire du Velay, qui donne une laine marron, marron foncé. La race de moutons Bizet, ça donne une sorte de beige. On a la race de moutons Solognotte, qui nous donne un ton un peu plus beige-orangé. Et ça fait très longtemps, nous, que l'on transforme déjà ces laines en fil à tricoter ou pour de la bonneterie.
Comment on peut motiver ces éleveurs? Parce que il y a quand même le prix de la laine dans le monde flambe, d'où la, du fait de la consommation, notamment chinoise.
Il doit y avoir une
motivation aussi pécuniaire pour les éleveurs.
Ce sont surtout les laines fines qui sont relativement chères actuellement. Ce sont les laines mérinos. Après, les autres laines, malheureusement, elles sont moins bien valorisées. Et voire pour des laines très grossières, il y a même des éleveurs qui jettent leur laine.
Je voudrais qu'on s'arrête.
Sur un mélange de races pour arriver à une qualité de laine en triant. Dites-nous ce qu'on peut faire pour vous.
Est-ce qu'il y a un moyen finalement de faire plus de quantité dans votre filature, dans les quatre autres filatures qui existent? Est-ce qu'on pourrait finalement, comme le souhaite Pascal Gautran qui est à vos côtés, relancer vraiment cette filière et qu'on ait demain une vraie production franco-française sans avoir besoin d'aller chercher la laine ailleurs?
On a déjà aujourd'hui, donc dans les races de laine que je vous citais, la noire du Velay, la bisée, la soulignote.
Oui, mais ça reste de petites quantités, hein. C'est ce que vous dites. Donc si on imagine la suite, qu'on a envie de développer cette filière, comment on fait pour vous venir en aide et pour que vous puissiez travailler davantage et que les éleveurs vous apportent davantage de laine encore?
Et ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'entreprises... Dans le vêtement, travaille avec des fils de laine peignée. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de filature peignée en France. Et en fil cardé, bon, c'est un fil qui est un peu plus grossier. Et donc, il y a peu de fabricants qui travaillent avec ces laines cardées.
Vous parliez du prix, justement, je voudrais qu'on s'y arrête. Elisabeth, le prix de la laine aujourd'hui, il est de combien?
Mais il n'a jamais été aussi haut, hein, entre 2 à 15 euros le kilo. Pour comprendre un petit peu tout ça, évidemment, il faut regarder du côté de l'Asie. Hein, la majeure partie de la fibre naturelle australienne, elle est expédiée en Chine et les industriels chinois en achètent beaucoup, en demandent beaucoup et il y a moins d'offres. Hein, donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour moitié, la laine est transformée avant de repartir à travers le monde, principalement en Europe. En Europe, c'est en Italie surtout, aux États-Unis, en Inde ou au Japon. Et vous savez ce qu'on fait maintenant avec la laine? On ne fait pas seulement des pulls.
Non.
Aujourd'hui, on les trouve dans les baskets à la mode ou dans les t-shirts.
Ouais, ouais.
On la trouve plus dans les costumes ou dans les manteaux. Non, on la trouve dans des accessoires.
On reste ensemble, ne bougez pas, on revient sur Europe 1.
Il est 13h20.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va s'intéresser toujours à cette relance de la filière. Ça part évidemment, on le disait, des éleveurs, les fédérer, les aider. C'est ce que fait par exemple la coopérative Laine de Rêve. C'est en Lorraine. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec cette question aujourd'hui. Comment relancer la filière de la laine made in France? Eh bien, vos invités, Raphaël Duchemin, y répondent. Il y a des innovations, ça bouge dans ce secteur. On en parle également à l'occasion du salon Made in France, première vision jusqu'au 4 avril. Et vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions autour de la laine, à réagir, à témoigner. Twitter, hashtag Europe 1, 3921, c'est le standard, Raphaël.
Et oui, vous savez que pour que le produit soit exploité ici en France, il y a des gens, on le voit hein, en ce moment sur Europe 1, qui ont décidé de se battre. C'est votre cas, Philippe Boyau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir parce que le chemin a été semé d'embûches.
C'est un peu épique.
Vous êtes le gérant de la coopérative Laine en Rêve. Elle est née il y a un an. Avec alors un statut un petit peu particulier, vous êtes une EBE, une entreprise à but d'emploi, parce que votre mission finalement elle est double, recréer du travail dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômage qui a été lancée, puis relancer aussi une filière, en l'occurrence la filière laine. Tout commence en 2016, ce sont les élus locaux qui réfléchissent en premier hein, et
c'est
qui
ça.
Se disent il y a peut-être quelque chose à faire.
C'est ça, par rapport à des réflexions d'éleveurs qui se plaignaient quelque peu de ne plus valoriser leurs produits. Donc la laine, les élus ont décidé de lancer une étude en embauchant une étudiante de l'INSAIA pendant 6 mois pour justement trouver ce qu'on pourrait faire avec les laines locales.
Oui, les laines locales en Lorraine notamment, mais pas seulement parce que vous avez passé les frontières, vous êtes allé voir aussi du côté du Luxembourg essayer de fédérer hein, finalement les éleveurs.
Oui, exactement. On a 13 éleveurs qui sont associés au projet, qui sont tous lorrains. Mais effectivement, j'ai fait des déplacements dans le Benelux, beaucoup. Et puis, géographiquement, comme on est la seule entreprise à faire de la literie laine dans la moitié nord de France, quasiment. Donc, on est très, très bien placé géographiquement.
Pourquoi est-ce que vous portez volontaire? Vous avez, je crois, passé une bonne partie de votre vie à tondre les moutons.
Oui, c'est ça. Ça fait 31 ans aujourd'hui que je vis les mains dans la laine au quotidien. Et donc, c'est devenu au fil du temps une passion, la laine.
Alors aujourd'hui, vous dites, ils sont 13, ils amènent leur laine, ils ont changé leur manière de voir, leur manière de faire les choses, ils sont plus attentifs à leurs produits finalement. C'est quelque chose qu'ils délaissaient un peu?
Oui, c'était délaissé parce que pas valorisé. Hein, le service de la tonte coûtait plus cher que la laine rapportait à ce moment-là. Et donc depuis, les laines qu'on a sélectionnées, il y a donc un cahier des charges qui est relativement important. Il faut qu'il y ait un tri bien spécifique le jour de la tonte, que les brebis soient des brebis de plein air intégrale pour avoir les laines de la meilleure qualité possible.
Combien est-ce que vous avez créé d'emplois grâce à cette coopérative Laine en Rêve?
Alors pour l'instant 6, avec une réflexion là, pour embaucher de nouveau une personne à la production. Et puis il y a un autre projet qui est dans les tuyaux, c'est de créer une petite unité de lavage pour pouvoir laver d'abord nos laines et aussi répondre à des besoins de petits acteurs transformateurs.
Ouais, parce que c'est ça, hein, effectivement, qui fait défaut aujourd'hui, et finalement le maillon qui manque à la chaîne, puisqu'il n'y a plus qu'un seul laveur. Je crois qu'on avait une question de Luc, notre
oui,
coach.
Oui, quelle est la quantité de laine par mouton à chaque tonte?
Alors,
parce que je crois qu'il y a un fort déséquilibre.
Dans nos races, à nous, on est entre 2 et 3 kilos. De laine brute par toise.
Brute. Et après, ouais. Après le tri, il en reste la moitié.
Après le tri et le lavage, il reste en gros 60%.
60%.
Voilà. Quand elle est très très bien triée au lavage, il nous reste quand même ça. Oui.
Vous fabriquez aujourd'hui des matelas, hein, c'est ça? Vous êtes, comment positionné sur le marché par rapport aux autres acteurs? Est-ce que vous arrivez à résister face à la concurrence?
On a un accueil qui est pour l'instant très positif. Hein. On a un carnet de commandes qui est bien rempli. Donc pour l'instant, c'est positif. Oui.
Vous pourrez résister quand les aides de l'État ne seront plus là? C'est une question que vous vous posez?
C'est le but.
Il va falloir que le modèle économique devienne viable. Vous pensez qu'il l'est aujourd'hui? C'est quelque chose qui vous préoccupe?
Aujourd'hui, on a eu un gros investissement dans du matériel, des machines. Donc, et c'est grâce justement aux aides de l'État qu'on a pu investir aussi rapidement. Mais à terme, évidemment, d'autres s'en sortent. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
Et c'est vrai, Elisabeth, hein, qu'il y a de plus en plus d'initiatives autour de la laine,
oui,
pour justement participer à cette relance de la filière.
Oui, ça se passe surtout localement. Il y a pas mal de projets par-ci, par-là. Par exemple, j'ai relevé le projet Laine Paysanne, hein, qui a été lancé déjà en 2015 dans l'Ariège, qui propose des laines locales, biologiques. C'est un projet qui aide justement les éleveurs de races locales à récolter, à trier, valoriser, commercialiser leur laine en circuit court. Il y a notre projet Rayolaine, vous connaissez peut-être,
oui.
Qui est porté par le syndicat des éleveurs de brebis et rayol. C'est une race locale des Cévennes. Là aussi, une trentaine d'éleveurs de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, qui s'organisent depuis 2015 pour valoriser leur laine. Et il y en a des tas d'autres.
Et on va continuer à en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous, bien sûr, au 39-21, on attend vos témoignages et vos questions. C'est la France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours avec Raphaël Duchemin et ses invités. La France avance et aujourd'hui, elle relance même la filière de la laine Made in France avec de nombreuses solutions, des innovations. C'est le salon Made in France Première Vision qui a lieu actuellement jusqu'au 4 avril. Et vous pouvez bien sûr participer à cette émission. N'hésitez pas vous aussi à poser dès maintenant vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. 3921 le standard, hashtag Europe 1 pour Twitter.
Nous sommes avec Pascal Gautran en charge du projet Tricolore, initiative originale pour soutenir justement cette belle filière lainière française. Thierry Terrade est là aussi, il dirige, c'est la quatrième génération de la filiature Terrade. Et Philippe Boyau, gérant de la coopérative de Rêve en Laine, association d'éleveurs lorrains qui transforme justement la laine des brebis en matelas haut de gamme. Notre coach aujourd'hui, finalement ça tombe bien, c'est Luc Le Sénécal, PDG de Saint-James, et à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag. Moi j'ai envie de vous demander... comment on peut faire qu'il y ait un mouvement national? Parce que, je le disais hors micro, on a le sentiment que chacun est dans son coin avec son projet et qu'il mène à bien. Mais qu'il y a, on le disait, des choses qui manquent pour que ce soit une véritable filière comme on a pu l'avoir avant. Qui a envie de me répondre, Pascal ?
Oui, avec plaisir. Effectivement, paradoxalement, ça ne peut pas venir des éleveurs seulement, puisque les éleveurs, ils élèvent la laine, c'est leur matière première, mais ils ne savent pas la travailler, ils ne savent pas comment faire pour la transformer. Donc c'est forcément les transformateurs qui ont un rôle à jouer. Il ne reste que 5 filatures, il y a quand même La France bouge, vous le savez. Mmh. Il y a donc un projet de filature qui est en train de se développer grâce au soutien de la communauté de communes et d'un groupement d'éleveurs le plus important en France, autour des brebis Laconne en Aveyron, donc à Saint-Affrique. Filature Colbert, grandement portée par le Jean-Pierre Romiguier du Sac du Berger, qui a fait des essais il y a une dizaine d'années déjà de filature à partir des laines de brebis Laconne.
Mais si et là, on est sur du peignet.
On est sur du cardé, mais on peut faire plein de choses avec le cardé, Raphaël.
Oui. Mais donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a totalement abandonné le peigné en France ?
Parce qu'on s'est laissé concurrencer par des pays qui ne sont pas très loin. De toute façon, si on veut faire du peigné, on peut très bien en faire dans un territoire qui n'est pas forcément la France, mais il y a une petite frontière à passer, c'est l'Italie. Et on peut très bien faire des choses. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'éleveurs français font faire leur fil peigné en Italie, à Biella.
Luc ?
Oui, moi... Je prends l'engagement, en étant la maille ou le maillon final, de produire dans nos ateliers, même de façon générique, peu importe, un pull issu de cette nouvelle filière qui se met en place, à votre disposition pour travailler. On sera fiers de la porter ici, de le montrer. Il y a tout un tas de mouvements, même en Normandie et en Bretagne, il y a aussi... On est en train d'aider une filature à se recréer et on est vraiment partie prenante. Il faut le faire savoir pour encourager ces éleveurs à se multiplier parce qu'encore une fois, les volumes de laine produite en France, que ce soit laine cardée ou peignée, sont largement insuffisants quand on a besoin de laine.
Alors, il faut justement qu'il y ait de la demande. Il faut que des marques comme vous, comme la vôtre, soient demandeurs. Mais s'il n'y a pas de fournisseurs, ça ne marche pas. Donc, tout le pari autour du projet Tricolore, ça a été d'aller voir des marques. Nous en avons réuni 68 qui sont visibles jusqu'à ce soir sur le salon Made in France Première Vision.
Avec des prototypes.
Avec des prototypes qui sont mis en collection pour l'hiver prochain. Ce qui veut dire que là, on déclenche déjà des quantités et on fait baisser le prix de revient.
Je voudrais qu'on redonne la parole à Philippe Boyau de Rennes en Lève. Philippe, vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est quelque chose qui peut vous concerner aussi quand vous entendez des projets comme ça émerger avec vos 13 éleveurs ?
Ah oui, tout à fait. Hein. Moi, je suis persuadé qu'à terme, en termes de production, je ne vais pas pouvoir suivre.
Vous allez pouvoir suivre.
On va pouvoir suivre, mais il va falloir que, sans doute, d'autres entreprises parallèles se créent pour pouvoir répondre à la demande qui est de plus en plus grande en matière de literie saine et écologique.
Thierry Terrat, j'ai regardé, il y a aussi l'association Lainamac, chez vous, à Feltin. Là aussi, il y a un nouvel atelier fil, il y a des indications géographiques protégées. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose aussi dans l'apprentissage, dans la transmission du savoir-faire.
L'association Lainamac, donc, qui se trouve à Feltin, essaie justement de fédérer la filière laine dans toute la région Nouvelle-Aquitaine et dans le Massif central. Et donc, ils travaillent pour former des personnes, pour créer d'autres ateliers, inventer de nouvelles choses à partir de la laine.
Oui, et on précise qu'il y a les Journées nationales de la laine qui seront au mois d'octobre, justement, dans la Creuse à Feltin, 25, 26 et 27. Et puis les Journées européennes du feutre, c'est important aussi, le 19 avril, 12 mai 2019. Je voudrais me tourner vers vous, on va peut-être conclure avec ça, parce que là, c'est un projet concret, Elisabeth. Il y a des jeans en laine qui vont bientôt voir le jour.
Oui, avec
et on les connaît,
un
d'ailleurs.
Fabricant lozérien que nous connaissons qui s'appelle Tuffery. Hein, Tuffery, donc qui fabrique
Julien
des jeans,
Tuffery, oui,
que nous avons reçus. Alors ils vont s'associer avec des coopératives et des éleveurs locaux pour maîtriser la production de laine et de chanvre qu'ils vont intégrer directement dans les toiles de leurs jeans.
Et voilà, c'est la relance de la filière laine aujourd'hui en France. On est ravis d'en avoir parlé et on est ravis d'avoir peut-être commencé à faire un pull Saint-James avec cette laine française. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle existe depuis 26 ans. Elle fait du bio, son credo. Léa Nature sera dans deux minutes l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
Et la France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, il est temps de découvrir l'entreprise qui va bien, merci. Elle a 26 ans et elle fait du bio aujourd'hui.
Eh oui, elle fait du bio et c'est même son ADN. Bonjour Charles Klobukoff.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Léa Nature, c'est votre bébé, c'est vous qui l'avez créé en 1993, effectivement. Et vous dites, j'ai toujours eu ça en moi, le bio. Ça vient de quoi? Ça vient de votre enfance, dans le milieu dans lequel vous avez grandi?
Oui, j'avais une famille très adepte des médecines douces, un oncle qui faisait pousser des légumes biscornus dans un jardin merveilleux avec du fumier, sans produits chimiques. Et donc, j'ai été élevé avec l'adage que moins on prend de médicaments, mieux on se porte. Donc, c'est assez naturellement, finalement, que j'ai eu envie de créer mon entreprise à 30 ans pour faire des produits naturels, bénéfiques pour la santé et respectueux de la nature.
Alors, vous débutez comment? Vous débutez par quoi?
Par des tisanes que nous avons élaborées avec mon épouse Catherine qui m'a rejoint ensuite pour développer toutes les filières et l'herboristerie et donc des tisanes bio qui faisaient du bien pour mieux dormir, pour mieux digérer.
Vous dites au début on m'a pris un peu pour un charlatan.
Absolument, au début effectivement quand on parlait de bio, on parlait de produits un petit peu ésotériques, on ne savait pas trop ce que c'était et puis dans la durée finalement ça s'est inscrit dans une logique à la fois de respect de l'environnement mais également de protection de la santé par rapport au rôle des pesticides, des perturbateurs endocriniens qui sont de plus en plus suspectés d'avoir des interactions avec la santé humaine.
Vous avez vu en fait la différence avant et après certaines crises. Je pense évidemment à la vache folle par exemple,
Qui
a été comme un électrochoc.
Ah oui, ça a été un électrochoc et ça a été un véritable boom pour les produits de la bio qui n'en demandaient pas autant d'ailleurs parce que avant tout, faire un produit bio, c'est d'abord le lien au sol pour l'agriculteur, c'est une philosophie entrepreneuriale. Mais on n'imaginait pas à quel point finalement le mouvement de la bio allait être boosté par les crises de l'agro-industrie. Et c'est vrai que les différentes crises qui se sont succédées ont permis de faire passer de la bio de 0,3% de la consommation en 93 lorsque j'ai démarré, à 4,3% de la consommation aujourd'hui et 6,5% des surfaces agricoles utile. Donc on est en face d'un changement radical, peut-être même un mouvement sociétal.
Vous dites on développe d'abord l'alimentaire, très vite ça s'impose de développer un autre pan, notamment tout ce qui est cosmétique. Aujourd'hui c'est un pan important de votre société. Hein. Vous avez même créé une nouvelle usine. Vous dites on va doubler notre capacité de production d'ici 2021. Ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose?
Oui, absolument. Il y a une sorte de défiance vis-à-vis de grands industriels qui ont utilisé des produits suspects d'avoir donc des effets non positifs, on va dire. Ça a été révélé en 2005 par envoyé spécial. Il y a beaucoup d'études scientifiques indépendantes qui tendent à établir des corrélations dans tout ça. Et aujourd'hui, il y a une vraie suspicion. Et donc, c'est vrai que les entreprises qui développent des produits sains, transparents, avec des ingrédients de qualité, aujourd'hui sont plébiscitées. Et effectivement, on a une croissance de 30% par an dans les produits cosmétiques bio. Donc notre usine était beaucoup trop petite. On a agrandi une, on en construit une à La Rochelle avec un investissement
bio
de 20 millions d'euros en une seule fois, ce qui est beaucoup pour une entreprise comme la nôtre qui va permettre effectivement de produire jusqu'à 40 millions d'unités de produits cosmétiques, là où nous en vendons actuellement à peu près 16 millions par an.
Mais c'est aller au bout de la démarche finalement, parce que c'est une entreprise, une usine entièrement bio
avec le souci de rejeter une eau parfaitement propre, avec un système de biodisque, un système enzymatique qui va permettre effectivement d'éliminer les petites particules indésirables. Mais comme on ne met pas en œuvre de produits chimiques, ce sont essentiellement des produits naturels, l'impact de cette usine sur l'environnement est assez exemplaire. Voilà.
Que dit notre coach Luc Le Sénécal?
Moi, je suis personnellement un adepte des produits bio. Donc, une bonne nouvelle, c'est que c'est sain. Et maintenant, les produits bio que l'on trouve, d'une façon générale, sont bons. Parce qu'au début, beaucoup se sont lancés dans le bio, non, mais pas spécialistes, par exemple, des fromages. Et les premiers fromages bio, il y a quelques dizaines d'années, n'étaient pas forcément bons. Maintenant, oui, c'est bon. Eh bien, j'avais deux questions. La première, quelle croyance on peut avoir dans ce label? Est-ce que vous avez une certification bio? Voilà. Et puis, quel est un petit peu la différentielle de prix qu'on peut avoir par un produit traditionnel et un produit bio.
Charles Klobouchov.
Alors, le logo AB, effectivement, pour les produits alimentaires. Le logo Cosme Bio pour les produits cosmétiques garantit le respect d'un cahier des charges dans la formulation des produits, l'absence d'un certain nombre d'ingrédients qui ne sont absolument pas tolérés dans le cahier des charges de la bio et un pourcentage d'ingrédients bio conformes, effectivement, à la réglementation. Nous avons également le devoir d'effectuer les contrôles nécessaires pour garantir l'absence, non seulement dans la mise en œuvre agricole de pesticides, mais également dans le produit fini, avec des seuils de tolérance minimales à ne pas dépasser. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire que ces logos sont vraiment un point de repère, un point de confiance pour les consommateurs. Ils ont été adoublés par un logo Eurofeuille, qui est un logo rectangulaire avec une petite feuille et des étoiles, qui a permis d'harmoniser les différents cahiers des charges des pays en Europe.
Et le prix ?
Alors, sur la question du prix, l'écart s'est énormément resserré. Vous avez raison, c'est vrai que un produit bio pouvait valoir jusqu'à deux fois le prix du produit conventionnel. Aujourd'hui, l'écart est plutôt dans une moyenne de plus 20 à plus 50%. Mais surtout, ce qui est à l'intérieur du produit vaut encore plus que ça. Parce que le bio ne met pas beaucoup d'argent dans le marketing, dans le suremballage. C'est vraiment la qualité de l'ingrédient qui est payé. Et il faut accepter dans la bio de payer les agriculteurs à des justes revenus. Parce que la nature a son propre rythme et elle n'est pas forcée comme elle est dans l'agro-industrie.
Oui, mais vous dites attention quand même, hein, y a aussi des gens qui surfent sur cette tendance et ça c'est important de le signaler. Vous avez un petit badge sur vous, je voudrais juste qu'on en dise un mot en 30 secondes. Vous êtes président du 1% pour la planète en France, c'est important de le signaler parce que vous reversez du coup.
Oui, alors c'est d'abord un honneur de la part d'Yvon Chouinard de m'avoir interpellé. C'est lui qui a créé le mouvement 1% aux États-Unis avec son entreprise Patagonia. Ça consiste à reverser 1% de son chiffre d'affaires, pas de son bénéfice, de son chiffre d'affaires, de toute partie de son activité.
Qui est quand même de 430 millions.
Voilà, donc pour nous, ça représente un peu plus de 2 millions d'euros par an que l'on donne à des associations de protection de la nature. Mais ça permet également d'aider des scientifiques indépendants à établir des preuves d'impact sur les OGM, sur les perturbateurs endocriniens, sur la santé humaine. Et puis, accessoirement, on a également le plaisir d'avoir des collaboratrices qui partent en congé solidaire, financées donc par l'entreprise, pour aller protéger la mangrove à Madagascar, faire de la reforestation en Indonésie ou faire la protection de la biodiversité au Zimbabwe.
Donc,
et on a de plus en plus de gens engagés qui sont motivés. Et ce que je veux dire, c'est que les jeunes sont extrêmement conscients et extrêmement mobilisés sur la cause environnementale. Il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train de s'opérer avec les générations X et Y.
Et on sent effectivement que vous êtes passionné par ce bio. Vous en avez fait votre vie, votre entreprise. Léa Nature, merci d'être venue nous en parler aujourd'hui sur
Avec
Europe
grand plaisir.
Il est 13h49.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Un site pour mettre ou trouver des petites annonces, on connaît tous. Mais comment être sûr qu'il n'y a pas d'arnaque derrière? La solution, c'est Gens de Confiance. On vous en parle dans un instant.
La France bouge sur Europe 1, tous les jours jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Et tous les jours avant 14h, c'est la solution du jour.
Oui, échanger des bons plans, trouver un appartement sur Internet, ça existe grâce à une solution faite pour ça. Elisabeth, le site s'appelle Gens de Confiance, il se prémunit de toutes sortes d'arnaques.
Mais oui, on connaît hein, tous des groupes d'échange de bons plans. On connaît le bon coin hein, pour acheter une voiture, trouver un appartement. Mais on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Avec Gens de Confiance, qui a été créé il y a 4 ans à Nantes, on préfère un système qui proscrit l'anonymat et qui impose un parrainage pour y avoir accès. 600 nouveaux adhérents par mois. Vous achetez, vous louez, vous donnez, vous pouvez naviguer sur une dizaine de catégories d'annonces.
Bonjour Nicolas Davoust.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Gens de Confiance, déjà 4 ans effectivement. C'est une réaction au bon coin, Gens de Confiance, ou pas du tout?
Oui, c'est un peu un constat qu'il y a de nombreux sites de petites annonces en France et qui font très bien leur travail pour mettre en relation les gens, pour trouver tout un tas de choses sur des tonnes de catégories et de services. Mais que la partie sécurité vraiment s'intéresser au fait qu'il n'y ait pas d'arnaque, que la personne vienne au rendez-vous, que le paiement ait lieu, était très maltraité et on a trouvé qu'il y avait vraiment un déficit de ce côté-là. Et alors, c'est là-dessus qu'on a essayé de changer les choses.
Alors, vous avez essayé de changer les choses, vous avez proscrit l'anonymat, il y a une sorte de parrainage pour entrer chez vous, il y a quoi d'autre?
Alors voilà, en fait, la base sur Gens de Confiance, c'est que c'est un site de petites annonces avec 400 000 membres, 400 000 membres du réseau. Il y a une petite erreur, il n'y a pas 600 inscrits par mois, il y a 600 inscrits par jour en fait, sur le réseau,
mieux.
Uniquement par bouche à oreille, parce qu'on ne fait pas du tout de publicité, on n'a pas de budget marketing, on se fait uniquement connaître par nos membres. Et la particularité, donc, c'est que pour accéder aux annonces du réseau, il faut être inscrit. Et il faut trouver trois parrainages de proches qui font déjà partie du réseau et qui vont pouvoir garantir auprès des autres membres que vous êtes quelqu'un de confiance. Alors, ça peut paraître compliqué, mais aujourd'hui, on voit que 80% des gens qui s'inscrivent, finalement, trouvent leurs trois parrains au bout d'une semaine en moyenne.
Mais comment vous vérifiez, comment peut-on avoir confiance? C'est quoi une personne de confiance?
Alors, pour nous, une personne de confiance, c'est une personne qui va être entourée par des personnes, par d'autres personnes qui la connaissent et qui peuvent dire, bah oui, cette personne, elle est vraiment de confiance. Alors, le parrainage, il fait deux choses, en fait. Il fait, d'une part, il empêche les escrocs notoires de rentrer sur le réseau, donc des gens qui sont vraiment pas fiables, personne va vouloir les recommander. Et puis d'autre part, il responsabilise les gens qui sont déjà à l'intérieur du réseau parce que, par respect pour ses parrains, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et on ne va pas rentrer dans des coups un peu douteux. Voilà, sachant que, en fait, si une personne est renvoyée du réseau, on va également renvoyer ses trois parrains.
Qu'est-ce qu'on trouve sur votre site? Toutes sortes d'annonces? Quelles sont les catégories?
On trouve vraiment de tout. On a une quarantaine de catégories avec à la fois des objets, des services, de l'achat, de la vente, de la location, mais aussi, et ça nous fait très plaisir, on a beaucoup de prêts d'objets entre voisins, de dons aussi, d'objets qui ne servent plus et qui peuvent avoir une utilité autre part. Et tout ça, c'est permis parce que, en fait, une fois que les gens se sentent en sécurité, bah, du coup, ils peuvent s'autoriser à être bienveillants, à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Mais c'est gratuit.
Alors, le site est complètement gratuit. Les annonces sont gratuites, sauf deux catégories qui sont les locations de maisons de vacances et les locations immobilières classiques, pour lesquels, en fait, il y a beaucoup de valeur qui est créée pour le propriétaire. Et la confiance et la sécurité est quelque chose de très important quand on reçoit des gens chez nous, soit pour des vacances, soit à l'année. On sait qu'aujourd'hui, qu'en France, le marché de l'immobilier est assez déséquilibré entre le propriétaire et le locataire. Le propriétaire doit avoir le maximum de garanties quand il trouve un locataire.
Et donc, là, vous êtes la garantie.
Et donc, nous, par notre système, on a trouvé un autre moyen de créer la garantie en dehors du dossier habituellement demandé. Voilà.
Luc ?
Oui, très rapidement, quel est votre business model ? Vous vous rémunérez comment ?
Alors voilà, j'ai parlé de deux catégories d'annonces payantes, oui, qui aujourd'hui font 60% de notre 60%, business d'accord. model. On a 20% qui sont assez classiques, c'est des options payantes sur les annonces, donc plus de photos, des remontées en tête de liste, donc des micro-paiements. Et puis la troisième, qui est beaucoup moins classique pour un site de petites annonces, ce sont des dons. Et en fait, les membres du site participent assez généreusement à notre mission qui est de remettre de la confiance au cœur du monde et en plus ils ont pu l'expérimenter. Donc souvent les gens participent quand ils retirent leur annonce et qu'ils ont vu qu'ils avaient pu trouver une babysitter pour les vacances, louer leur maison de vacances, etc.
Ça s'appelle Gens de Confiance, c'est la solution. Merci d'être venu nous la présenter aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Luc qui était notre coach. Nous, on se donne rendez-vous demain. On parlera des nouvelles techniques justement de beauté.